If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bah alors Romain, qu'est-ce que tu fais avec ton micro assis comme ça dans ton salon ?
Ouais, salut Mathieu, bon, on m'en parle pas. Hein. C'est comme ça, avec le confinement, je suis obligé de bosser chez moi. On s'en sort, hein, franchement. Regarde, notre invité, lui, il s'enregistre carrément dans son jardin. Bon, je t'en dis pas plus, on se rejoint en ligne. Allez, allume ton micro et fais passer le message à Marcel, s'il te plaît.
Allez, chauffe le camion podcastique, Marcel, chauffe.
Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue ?
Chut, Jamy, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Tous à la maison, mais tous invités chez Jamy. Chaque jour depuis le début du confinement, Jamy Gourmaud poste une vidéo réalisée dans le jardin ou l'atelier de sa maison de Clamart. Chez Jamy, on parle bien et peu. Le format est court, à peine plus d'une minute. Dans ce qu'il appelle ses capsules de déconfiné, la magie du co-animateur de C'est pas sorcier et du monde de Jamy fait toujours des étincelles. Une paire de lunettes rondes bien épaisses, quelques éléments de décor et sa bonhomie habituelle fait le reste. Chaque jour voit un nouveau mystère rayé de la liste. L'origine de l'œuf de Pâques, pourquoi les plumes des oiseaux sont-elles étanches, ou ce qui fait qu'on appelle un trou noir, un trou noir. Il faut dire qu'il a de la pratique. Ça fait plus de 25 ans que Jamy Gourmaud, avec ses mots, ses maquettes, nous parle avec passion de géologie, d'astronomie et même de jardinage. Cette fois, on a invité ce passeur de savoir à passer au micro pour nous parler de son savoir à lui. Je veux bien sûr parler de la vulgarisation scientifique. Jamy Gourmaud, bonjour et bienvenue dans 6ème Science.
Bonjour Romain.
Alors, vous l'avez compris, on va parler de vulgarisation. Notre deuxième invité en a fait sa spécialité pour tout ce qui a trait aux sciences et aux nouvelles technologies. Mathieu Novak, tu es rédacteur en chef adjoint du magazine Science et Avenir. Bonjour Mathieu.
Bonjour Romain, bonjour à Jamy et bonjour à tous.
Bonjour Mathieu.
Super, on a fait les présentations, on va continuer à le faire avec justement les capsules de déconfiné et le format chez Jamy. Alors Jamy, tu me diras si je me trompe, mais j'ai cru comprendre, enfin je l'ai lu même, l'idée derrière ce format sur lequel on va s'attarder ne venait pas de toi, mais d'une, on va dire, camarade de confinement de longue date, autrement dit, Madame Gourmaud.
Exactement, c'est Manuela, mon épouse, ma compagne, qui a eu cette idée avant le début du confinement, le lundi qui précédait le déclenchement du confinement. Elle m'a dit, mais si on doit rester confiné comme cela pendant plusieurs semaines, il faut absolument faire une petite série, un message tous les jours dans lequel on va transmettre un savoir, mais quelque chose qui permette de s'aérer la tête, de s'aérer les neurones. Voilà, c'est parti comme ça. Et donc, dès le mardi, nous avons été confinés. Depuis ce mardi-là, nous publions tous les jours une vidéo.
Semaine et week-end inclus. Hein.
Semaine et week-end inclus, tout à fait.
Le slogan, on l'a dit, on l'a entendu, c'est une minute à peu près pour s'aérer les neurones. Alors la question, c'est de quels neurones on parle ? Est-ce que c'est les neurones des enfants, des profs ou de tous ceux qui vous regardaient, moi y compris, quand on était gosse ?
En fait, c'est les neurones des profanes. Moi, je me suis jamais adressé qu'à des enfants. Je m'adresse aux profanes. C'est très difficile de parler à un enfant parce que on ne parle pas à un enfant de la même manière quand il a 6 ans, quand il en a 9, quand il en a 12, 15, 17. Voilà. En revanche, un profane, on lui parle toujours de la même manière. Qu'il ait 5 ans, 10, 15, 20, 30, 50, 60, jusqu'à 100 ans, le profane, il est toujours le même. Le profane, il a envie de savoir et on va être clair pour que le profane comprenne. Donc, c'est vrai que toutes ces émissions faites par le passé, C'est pas sorcier en particulier, on considérait qu'elles s'adressaient à des enfants, mais moi, je me suis toujours adressé, et Fred aussi, nous nous sommes toujours adressés à des profanes.
d'où peut-être l'éventail des sujets qui sont traités. Alors là, par exemple, j'ai pris « Pourquoi l'oignon fait-il pleurer ?» ou « Expliquer pour la quantité d'eau présente dans le corps humain » dans les vidéos. Alors, on c'est pas sorcier, le monde de Jamy, mais là, du coup, dans les capsules de déconfiné, on brasse un peu toutes les matières. Là, du coup, la question qui suit, c'est comment vous choisissez les sujets de vos capsules et est-ce que vous tenez une sorte de liste pour les trois prochaines semaines à venir?
Alors non, j'ai pas de liste. J'essaie de prendre un peu d'avance sur 2-3 jours. J'aime bien les écrire le jour même et les tourner le jour même. Être dans le feu de l'action, ça tient au format, ça tient au confinement. Donc les sujets, ce sont obligatoirement des sujets dont on est un petit peu proche. Alors proche en termes géographique, voilà, j'ai mon jardin, ma cuisine, mon atelier, donc les accessoires, les sujets, je vais les puiser dans cet espace. Et puis, proche aussi d'une actualité hors Covid. Je m'appuie aussi beaucoup sur, vous savez, quasiment tous les jours, il y a une journée nationale ou internationale de ceci ou de cela. Ben, c'est vrai que je vais m'appuyer sur ces événements quand ils existent. Parfois, c'est un anniversaire. Vous avez cité le trou noir tout à l'heure. Ben oui, j'avais envie de revenir sur le trou noir parce que je me souviens de la publication de cette photographie et c'est vrai que c'est un événement considérable. On ne mesure pas bien le pas qui a été franchi en permettant de visualiser ce qu'était le trou noir. Il faut bien s'imaginer que depuis Einstein, on n'avait que des simulations, on essayait d'imaginer à quoi ressemblait ce trou noir. C'est un petit peu comme la première photographie de Mars, si vous voulez. On imaginait auparavant à quoi ça pouvait ressembler, et puis là, un jour, eh bien, on a enfin pu voir à quoi ça ressemble. Alors, on n'a pas vu le trou noir, on a vu ce qui se passe autour, bien évidemment. Mais donc, voilà, c'est un événement dont j'avais envie de parler. Donc, vous voyez, je pioche un petit peu dans tout cela, proximité, soit géographique ou soit proximité événementielle.
De votre côté, Mathieu, chez Science et Avenir, j'imagine que le Covid occupe encore l'essentiel de l'activité de vos journalistes, mais est-ce que vous continuez justement à proposer des sujets, on va dire, un peu plus magazine et peut-être un peu plus éloignés de l'actualité qui est assez chargée et assez dure?
Oui, c'est sûr qu'on a un devoir de répondre à des questions et une envie, une soif de comprendre, mais plus le temps passe, plus effectivement on a aussi besoin et le devoir de donner cette respiration. Et j'aime beaucoup la manière de présenter les choses de Jamy, parce que finalement, dans les sciences, c'est exactement ça qui se passe tout le temps. On commence par se poser une question, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise question, il n'y a pas une question de grand spécialiste. Mais on commence par se poser une question et après, on cherche la manière d'y répondre. Et ça, c'est un devoir quotidien, aussi bien dans la réalisation des sciences que dans la vulgarisation scientifique.
Je vais vous l'expliquer en une minute au tableau noir.
L'événement en termes de vulgarisation scientifique, c'était l'arrivée justement de la chaîne YouTube de Jamy, ce qui était un petit peu une première. Vous débarquez du coup sur un réseau de créateurs, de vidéastes, où il y a quand même maintenant pas mal de vulgarisateurs scientifiques. Alors je vais en citer quelques-uns et quelques-unes, Dirty Biology, Ipensée, Syllabus. Enfin, il y en a quand même beaucoup aujourd'hui et ils en font plutôt bien. Parfois peut-être même en s'inspirant d'un modèle comme C'est pas sorcier. Est-ce que Jamy, vous suivez ce qui s'y fait? Est-ce que vous y reconnaissez en quelque sorte?
Alors je le suis évidemment, je suis tous ces youtubeurs depuis l'origine parce que c'est évidemment une source d'information et c'est aussi une manière de voir aussi comment, Mathieu le disait à l'instant, une manière de voir comment l'information va être traitée. Donc oui, je regarde, je les suis avec certains avec assiduité d'ailleurs. Alors après, est-ce que je m'en inspire ou pas? Je suis pas sûr. Je crois que ce qui est intéressant justement avec le support, avec ce support que je ne connaissais pas, si ce n'est en tant que spectateur, en tant que consommateur, ce qui est intéressant, c'est que on a la possibilité d'être tout à fait soi-même. C'est-à-dire que moi, quand je me lève le matin et que j'écris quelque chose, je me pose pas de questions, c'est-à-dire que j'ai envie d'écrire ça, de le raconter comme ça, ben je vais le faire comme ça. Donc je ne me pose pas de la question de savoir à quelle heure ça va passer, entre quel type d'émission, non, je vis finalement mon sujet avec une grande liberté. C'est ce que je vais chercher sur un format comme celui-ci.
Ce que vous nous dites, en quelque sorte, c'est que le Jamy qu'on a connu à la télé, c'est le Jamy qu'on voit aujourd'hui sur YouTube et le Jamy du confinement, quoi.
Alors oui, oui, parce que je fais ça tout à fait naturellement. Donc voilà, mais le Jamy que vous voyez dans le monde de Jamy, c'est aussi le vrai Jamy. C'est un monde, c'est un mélange de tout ça. Mais si vous voulez, vous me posiez la question par rapport aux autres YouTubeurs. J'ai pas regardé ce que faisaient les uns et les autres et puis mélangé tout ça pour me dire ben voilà, je vais prendre un petit peu de ceci, un petit peu de cela et puis je vais faire un nouveau format. Non, j'y suis allé direct avec simplicité, voilà, sans me poser trop de questions et sans trop d'objectifs. Je rappelle d'ailleurs que au départ. Ces capsules de déconfinés, elles étaient diffusées sur mes réseaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, et que la chaîne n'est arrivée qu'après, c'est quand des enseignants m'ont demandé de les rendre plus accessibles et ailleurs que sur les réseaux, que j'ai créé cette chaîne.
A contrario, vous retrouvez peut-être de l'ADN de vos précédentes émissions dans ce qui se fait sur YouTube et on va dire chez tous ces différents créateurs et vulgarisateurs.
Alors, j'ai toujours considéré que on était les héritiers de nos prédécesseurs. C'est-à-dire que ce serait tout à fait logique qu'on retrouve des éléments de ces pas sorciers ou d'incroyables expériences dans les choses qui se font sur YouTube. Mais de la même manière, nous, quand on a créé C'est pas sorcier, eh bien, nous étions les héritiers de ce que faisaient Jérôme Bonaldi ou Michel Chevalet ou Laurent Broumed. Vous voyez, on a tous ou les frères Bogdanov. Donc voilà, les choses s'enchaînent, se chevauchent parfois. Ce qui est important, je pense, quand on crée un nouveau programme, c'est d'inventer quelque chose, de ne pas refaire à l'identique.
Alors justement, on va parler un petit peu plus de ce nouveau format. On retrouve quand même un point important chez vous, c'est le côté très visuel de la mise en scène. Alors là, vous le faites un petit peu avec les moyens du bord, mais déjà, vous filmez souvent dans votre jardin. Mais on va retrouver, ben, là, par exemple, tout à l'heure, je donnais l'exemple d'un sujet sur les plumes des oiseaux. Donc vous allez imprimer ou récupérer des supports visuels, vous allez utiliser des plumes. Idem pour expliquer pourquoi les bananes noircissent ou ce genre de choses. C'est important pour vous, justement, ce côté. Alors, ça fait évidemment penser aux maquettes hein, que vous avez pu utiliser il y a un certain moment, mais rendre la science visuelle, peut-être pour la rendre plus simple, c'est quelque chose d'important chez vous ?
C'est important quand... tu vois, il y a une espèce d'alchimie qui se produit hein, quand j'écris une capsule, une alchimie qui se produit à la fois chez moi et chez ma compagne. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, mais qu'est-ce qui est intéressant à voir dans ce que je dis. Et soit ce qu'il faut voir existe autour de nous matériellement, soit ça n'existe pas. Et dans ce cas-là, il faut le construire et le montrer. Mais ce qui nous motive, c'est d'abord et avant tout de pouvoir visualiser, de faire en sorte que le celui qui va consommer cette capsule va pouvoir visualiser, comprendre le sens de ce que j'explique. Et parfois, il faut fabriquer un support. L'idée n'est pas de mettre des supports dans tous les sens. Et, non, c'est si à un moment donné, j'ai besoin d'un support pour expliquer quelque chose, que je ne l'ai pas, qu'il n'existe pas, eh bien, on se creuse la tête pour le fabriquer. C'est l'exemple typique quand j'ai fait l'histoire du papier toilette. Je l'ai fait pour le papier toilette parce que c'était à un moment où il y avait plus ou moins une pénurie de papier toilette. Mais pour moi, c'était l'occasion rêvée de parler de la capillarité. Vous voyez. Et donc, qu'est-ce qui était intéressant de montrer quand on parle de capillarité? Eh bien, de voir comment les liquides remontent entre les fibres par capillarité et ça et ben voilà on a fabriqué une maquette. Même chose quand j'ai expliqué la voix, je voulais absolument que l'on voit les cordes vocales et on a utilisé une boîte de Pringles voilà pour montrer les cordes vocales et c'est génial parce que ça marchait très très bien. Manuela a peint le tube de la boîte de Pringles, on a juste donné un coup de cutter dans le couvercle qui est en alu et en pressant légèrement la boîte, on avait vraiment le sentiment que les cordes vocales, voilà, ce qui symbolisait les deux muscles, vibraient. C'était, voilà.
De la contrainte, on le dit, hein, naît la créativité quand même, hein, il faut le souligner.
Oui, c'est un peu ça. Ça nous amuse aussi. Voilà.
Ouais, à propos de contraintes, Jamy, je voulais te poser une question. Parce que quand tu fais de la télé, t'as un format, t'es contraint justement. Nous, quand on écrit dans le journal, on est contraint par la taille des pages. Mais dès qu'on est sur le web, eh ben, on a la liberté. Et toi, tu vas sur le web, sur YouTube, t'as la liberté de faire ce que tu veux. Et là, tu te colles une minute. C'est aussi pour te forcer à avoir une contrainte ?
Non, c'est simplement, tu sais ce que je disais tout à l'heure, au début je le faisais pour les réseaux et notamment pour Instagram. Sur Insta, c'est mieux quand ça dure une minute, juste une minute. Donc, ben voilà, je l'ai calibré à une minute et puis ben maintenant je commence à faire un peu plus long et puis à faire des formats pour Insta et puis un peu plus long pour YouTube. Mais étant donné que j'en fais quand même une par jour et que je ne fais pas que ça, je me suis limité à la minute pour pouvoir avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Parce qu'à côté, il y a l'écriture du monde de Jamy qui continue, qui occupe pas mal de mon temps. Hein. On fait comme vous, hein, bien sûr, Mathieu, Romain, beaucoup de réunions Zoom. Donc voilà, ça occupe pas mal de temps. Donc voilà, la minute, hein, cette contrainte que je me suis imposée, elle s'explique à cause de ça.
Et est-ce que des fois, en cours de préparation, tu dis « Ah non, une minute, là, je vais pas y arriver, il faut que je fasse autre chose ?»
Ça m'est arrivé, mais souvent je reviens et je dis « mais non, je fais une minute, donc je ne peux pas tout dire ». En même temps, c'est assez intéressant parce que, si tu veux, c'est à la fois une contrainte, mais très bizarrement, c'est presque aussi un confort. Parce que, puisque ça ne dure qu'une minute, eh bien, on ne peut pas me reprocher de ne pas avoir été exhaustif sur le sujet. Voilà, une minute, on sait très bien qu'on ne peut qu'aborder qu'un tout petit côté des choses. Donc je choisis toujours le côté qui me plaît le plus.
J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi, c'est...
Non, moi non plus, j'ai rien compris.
On a pas mal utilisé le terme de vulgarisation, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui s'y rapportent. On parle de démocratisation des savoirs, de popularisation, et d'autres, certains parleraient de simplification. Comment vous placez, vous, le curseur entre rigueur scientifique et accessibilité, on l'a dit, vulgarisation des savoirs? Au final, qu'est-ce qui est le plus important en termes de message et en termes de transmission quand on vous regarde? Et la question vaut aussi pour toi, Mathieu, quand on vous lit.
Allez, Mathieu, je te laisse prendre la main.
Tu sais, vulgarisation, c'est un terme qu'on n'aime pas beaucoup parce qu'en français, il y a le mot vulgaire derrière. On ne veut pas être vulgaire. On veut simplifier les choses, mais on négocie pas avec la rigueur. C'est-à-dire qu'il y a toujours des scientifiques qui sont derrière, qui nous aident, mais il faut qu'on utilise des mots simples et des concepts très compliqués peuvent généralement s'exprimer avec des mots simples. Mais la vulgarisation, ça doit permettre de faire passer des concepts compliqués, et comme disait Jamy tout à l'heure, on peut expliquer des choses très compliquées à des enfants. Il faut trouver les bonnes images, les bonnes approches, mais les concepts qui sont généralement derrière sont simples et on doit pouvoir réussir à les expliquer.
Je crois qu'il faut être très exigeant aussi avec soi-même, donc rigueur, exigence. Souvent ça implique, et je suis sûr, Mathieu, que tu ne contrediras pas ce que je vais dire, c'est que parfois, pour aborder un sujet, même de manière très très parcellaire, il faut en savoir beaucoup plus, parce que simplifier nécessite d'en savoir plus pour ne pas créer de contresens au moment où on va simplifier les choses. Et donc ça, c'est très très important. Ce qui est important aussi, c'est de vérifier les choses. Ce matin, tu vois, je préparais une petite capsule là et je voulais vérifier une info. Eh bien, j'ai appelé Marc-André Sellos, là, un ami du Muséum National d'Histoire Naturelle, pour vérifier, pour ne pas dire de bêtises. Donc voilà, ça passe par ça aussi. Et moi, ce qui me fait toujours peur, je sais pas comment c'est pour toi, Mathieu, mais moi, ce qui me fait toujours peur, c'est d'utiliser un terme qui va me sembler juste au premier abord, mais qui va créer un contresens. Et ça me fait toujours très peur.
Mais on a cette chance qu'on a les scientifiques qui sont souvent des gens très ouverts et qui acceptent très bien le travail que nous on fait. Et quand on s'adresse à eux pour leur dire « Est-ce que vous pouvez nous aider à relire, revoir, nous aider à formuler cette chose ?» et qui, dans l'autre sens, nous disent « Attention, vous utilisez ce terme-là, il n'est pas tout à fait correct. » Il y a une discussion qui s'y fait, mais on a cette chance d'avoir ces experts parce que nous ne sommes pas les experts. Parfois, les gens pensent que nous sommes des académiciens, mais nous sommes des curieux, des journalistes, et on va chercher l'information là où elle se trouve, et pour nous, elle se trouve chez les scientifiques, et c'est eux qui nous aident à conserver cette rigueur que nous n'avons pas intrinsèquement au départ.
Exactement, ça c'est très très important de ne pas mélanger les genres. Nous ne sommes pas des experts. Là, souvent on m'a demandé, d'ailleurs pendant cette période de confinement, de Covid, de répondre à des questions sur le virus. Et j'ai refusé parce que, même si la réponse me semblait tout à fait facile à formuler, dans la mesure où je ne suis pas expert, ce n'est pas à moi de la formuler. Sur des questions comme celle-ci, c'est la parole de l'expert qu'il faut entendre. Ou alors, il faut dire, j'ai entendu un expert qui m'a expliqué que, mais je ne peux pas parler en mon nom propre sur des questions comme celle-ci. Nous ne sommes que des passeurs. Nous nous faisons le lien entre les sachants et ceux qui ont envie de savoir. On est vraiment, c'est le béaba du journalisme, hein, en quelque sorte.
C'est vrai que de votre côté, que ce soit sur Le Monde de Jamy ou C'est pas sorcier, vous brassez et vous avez brassé des sujets extrêmement différents. Il n'y a pas longtemps, j'ai utilisé un extrait de C'est pas sorcier sur le ver de terre, par exemple. Mais à partir de là, comment, sur des formats assez longs, hein, par exemple pour Le Monde de Jamy, c'est une émission qui est quand même assez longue, comment vous protégez en quelque sorte de l'erreur en termes de rigueur? Et combien de temps, par exemple, vous mettez pour préparer une émission, vérifier les infos? Quels sont, je ne sais pas, vos supports de recherche? Est-ce que vous avez des références régulières?
Pas régulières, parce que tous les sujets sont différents, mais sur Le Monde de Jamy, par exemple, il faut imaginer que l'émission qui va être diffusée ce soir sur France 3, c'est une émission dont la préparation a commencé au mois d'avril et le montage s'est terminé au mois de mars suivant. Donc presque un an, parce que c'est des films de 2 heures, parce que on cherche les bons interlocuteurs, ceux qui seront à l'image bien sûr, mais aussi ceux qui vont nous apporter toutes les connaissances dont on a besoin, avec qui on va vérifier, avec qui on va éviter tout ce que l'on a dit précédemment avec Mathieu. Donc oui, ça prend beaucoup de temps et ça nécessite d'avoir du recul et pour se dire parfois tiens, mais finalement ça, est-ce que c'est bien sûr, est-ce que je devrais pas vérifier une énième fois? Alors bien sûr qu'on va pas tout vérifier. Quand je fais une capsule, je ne vais pas vérifier tout ce que je dis parce que il y a des données qui sont acquises avec le temps. C'est d'ailleurs un peu le problème de notre culture scientifique. Je ne sais pas ce qu'en pense Mathieu, mais je crois qu'on manque malgré tout dans notre beau pays de culture scientifique, ce qui fait que systématiquement, quand il y a un nouveau sujet, eh bien, on est obligé de revenir aux bases et on a beaucoup de mal à s'éloigner des bases. Alors, il y a des journaux qui le font très très bien comme Science et Avenir, mais on voit bien que dès que on veut considérer un savoir comme acquis et aller un peu plus loin, c'est compliqué parce que ce savoir n'est pas forcément considéré comme acquis. Quand on parle de réchauffement de la planète, eh bien, il faut systématiquement reparler de l'effet de serre. C'est un peu dommage parce que ça devrait être acquis et compris par tous pour pouvoir franchir la marche supérieure et aller un peu plus loin parce que si on veut bouger, si on veut que les choses bougent, eh bien, il faut absolument avoir des connaissances, des acquis que je considère comme étant des éléments de culture générale.
Ouais, c'est doublement compliqué parce que quand tu prépares un sujet, alors tu te poses toujours la question en fonction du média à qui je m'adresse, donc quelle va être a priori sa culture générale. Mais même une fois que tu as répondu à cette question, on sait que les sciences, et notamment en France, ont cette fâcheuse réputation d'être quelque chose de compliqué. Donc même, tu sais que tu vas t'adresser à quelqu'un qui va avoir une sorte de mouvement de rejet en disant je suis pas sûr que je vais pas comprendre, sauf si c'est évidemment un passionné qui est là tous les jours, qui vit en permanence. Mais si tu veux sensibiliser un curieux, un honnête homme comme on dit, il va avoir ce rejet en disant je vais pas comprendre. Et donc même s'il le sait, il va falloir que tu retournes sur cette idée que tu le sais, tu peux comprendre, c'est la culture que tu possèdes. Et donc il va falloir effectivement revenir à des bases, mais en plus surmonter ce frein de départ d'acceptation du sujet.
Voilà. Et alors, en plus, si je peux rajouter, Mathieu, je ne sais
sûr,
pas comment ça se passe chez vous, mais moi, j'ai remarqué que très souvent, un sujet, effectivement, peut sembler compliqué, et dès lors qu'on réussit à trouver une manière de l'expliquer qu'il devient simple, eh bien, ceux qui ne comprenaient pas au départ, dès l'instant où ils le comprennent, ils ont un petit peu tendance à dire « Ah oui, mais ça, c'est pour les enfants ».
Ouais.
Moi, j'ai l'impression parfois d'entendre ma grand-mère. Ma grand-mère, je me souviens, quand elle regardait la télévision et qu'elle écoutait aux informations un scientifique parler, plus c'était compliqué, plus elle avait l'impression de regarder de la science. Tu vois ?
Plus ça paraissait vrai, quoi.
Et oui, on est face à un double obstacle.
C'est l'inverse du syndrome de l'imposteur.
Voilà.
Oh les mains ! C'est un hold-up ? Non, c'est une expérience scientifique !
Il y a quelque chose justement qui surfe, on va dire, sur, on va pas parler d'ignorance, mais éventuellement sur le manque de culture scientifique, c'est des dérives. On parlait tout à l'heure de la négation du réchauffement climatique, éventuellement d'autres camps comme les platistes. Enfin, en tant que tel, est-ce que votre métier à tous les deux a changé avec l'essor de ces théories qui s'appuient sur quand même pas grand-chose et de l'essor d'un terme qu'on connaît bien aujourd'hui, c'est celui des fake news.
Mathieu, c'est devenu omniprésent. Ces fake news, c'est devenu tout le temps. Et il y a deux choses. C'est que d'une part, si on passait notre temps à répondre à ces fake news, on ferait que ça. Et d'autre part, on s'est aperçu, notamment sur les réseaux sociaux, que plus tu donnes en fait d'éléments de réponse, plus en fait tu confortes la personne qui est dans un schéma fermé, que tu lui caches quelque chose, que tu essaies de l'embrouiller. Donc nous, c'est pas un bon terrain d'attaque finalement de démonter systématiquement. Notre seul bon terrain d'attaque, c'est d'expliquer pour que les gens puissent avoir les moyens, les outils de répondre par eux-mêmes. Par exemple, je sais pas, là, il y en a tout le temps. Il y en a par exemple sur le coronavirus. On parlait de, il y a eu sur le coronavirus cette idée que le virus pourrait venir être extraterrestre, pourrait venir d'ailleurs. Ça a été sorti par le directeur d'un centre d'astrobiologie au Royaume-Uni, dans l'université de Birmingham. Alors là, t'as un scientifique qui le dit, donc ça devient difficile. Mais qu'est-ce que nous on peut faire ? On va pas dire, il raconte n'importe quoi. Par contre, on va pouvoir expliquer aux gens que c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que un, il y a pas de preuves. Or, dans les sciences, tout se passe d'abord par la preuve. Deux, ensuite, on sait ce qui se passe dans l'espace. Il y a des radiations qui viennent du milieu interstellaire, des rayonnements très énergétiques qui sont extrêmement délétères pour tout ce qui est vivant, que c'est un problème pour les gens qui veulent aller sur Mars. Donc un pauvre petit virus qui va pas arriver sur une météorite jusqu'à la Terre, il va avoir beaucoup de mal à survivre à ça. Donc voilà, ça c'est des éléments concrets qu'on peut essayer d'expliquer avec des recherches récentes, comme par exemple on le fait sur les milieux interstellaires, et pour essayer que le lecteur lui-même après se dise, bon, il dit ça, mais ça a l'air de pas tenir debout. Si vraiment ça tient debout, il faut qu'il m'apporte la preuve. La preuve, je l'ai pas. Donc, est-ce que je peux y croire ? C'est pas à nous de dire aux gens ce qu'ils doivent croire. Mais nous, on peut les aider à leur donner les moyens de comprendre les choses qu'on leur explique.
Ce qui est important, c'est ce que Mathieu disait au tout début, c'est l'argumentation. Comprendre. Et je pense que, parce que les fake news qui sont, ce qui est valable pour la science, l'est pour tous les autres domaines. Et de bien comprendre que avancer quelque chose, c'est aussi avancer une argumentation. Et la science répond à des principes argumentaires qu'on doit respecter, parce que si on ne respecte pas ces principes, bien, là, tout est ouvert et on peut croire tout et n'importe quoi. Mais voilà, c'est donné au public. Justement, c'est clé pour comprendre ce qu'est l'argumentation scientifique.
Et comme disait Jamy tout à l'heure, nous, à la fin, on n'est que des passeurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas à avoir une opinion, on ne détient pas une vérité, mais on peut essayer de rendre compte, voilà ce que la science, l'état d'art dit, et voilà avec quelles preuves et quelles démarches scientifiques. Et ça, on peut le transmettre.
Voilà. Mais c'est vrai qu'on voit quand même de plus en plus de formats de vulgarisation, de simplification. On a parlé, bah, là on est en train de faire un podcast de vulgarisation scientifique, mais on disait tout à l'heure, on parlait des youtubeurs. Enfin, il y a quand même un essor éventuellement de passeurs de savoir sur les différents supports. Du coup, est-ce qu'on ne peut pas dire que, ou espérer que d'ici 5 à 10 ans, le niveau moyen et la curiosité moyenne des Français en matière de science soit plus élevé qu'aujourd'hui ?
Ben si, on peut que l'espérer, je pense. Et je crois que ce que nous vivons aujourd'hui ne peut que aller dans ce sens, parce qu'on voit très bien que lorsqu'on se trouve confronté à un événement comme celui de l'épidémie du Covid, eh bien on a besoin d'explications, on a besoin de comprendre. Et moi je trouve que ce qui a été très enrichissant et très bénéfique, c'est justement la manière dont les scientifiques, les experts ont pris la parole, mais ont réussi, je pense, à faire comprendre le sens de l'hypothèse. C'est-à-dire que on avance un petit peu dans un inconnu et il y a des hypothèses qui sont formulées et on teste ces hypothèses. Et ça, je trouve que c'est plutôt encourageant. Et puis, ce qui est encourageant, c'est que effectivement, pour comprendre ce qui se passe, eh bien, je pense que chacun a dû faire preuve d'un petit peu d'imagination pour visualiser un peu comment ce virus pouvait s'attaquer à une cellule et peut-être mieux comprendre pourquoi la maladie pouvait entraîner une insuffisance respiratoire. Je pense malgré tout que ce confinement et cette épreuve que nous traversons nous amène à plus d'intérêt pour ces disciplines.
Oui, la circonstance est malheureuse, mais c'est vrai que tous les canaux qui se multiplient, notamment dans ces tristes circonstances de coronavirus, un exemple tout bête, c'est voilà, on apprend aux enfants, on nous a appris « lave-toi les mains ». On le faisait machinalement. Ben voilà, un événement comme ça survient. Il y a eu plein de gens qui ont expliqué par écrit, à la radio, en images, pourquoi on le fait et que ça a une vérité scientifique et que ça a une efficacité à l'échelle macroscopique.
Tu vois, mais d'ailleurs, enfin, je parlais tout à l'heure, dans les premières capsules que j'ai faites, j'ai expliqué comment fonctionnait le savon, justement. Tu vois, cette histoire de molécule qui est à la fois hydrophobe et hydrophile, qui permet justement d'enlever les microbes, voilà, qui sont attachés.
Promis, je mettrai le lien.
Ah bah alors là il n'y a pas tout, alors là c'est mathématique, là c'est scientifique,
On quitte justement peut-être la capsule de confiné pour évoquer des sujets un peu plus larges comme ceux que vous traitez dans le monde de Jamy. Est-ce qu'il y a des sujets que vous rêveriez d'expliquer, de prendre le temps d'expliquer, mais auxquels vous n'osez pas vous frotter ou qui seraient trop compliqués à traiter? La question vaut aussi pour toi Mathieu, sachant que par exemple là moi à la fin de la semaine j'interviewe quelqu'un d'autre, enfin Hasard, donc toujours de la rédaction de Science et Avenir, sur les secrets que nous réserve encore l'univers, et le sujet est extrêmement complexe, mais j'ai lu le dossier d'une traite et je l'ai trouvé très très simple d'accès, sachant que justement je partais quasiment de zéro. Donc la question est ouverte à tous les deux, c'est en gros, est-ce qu'il y a des sujets qui sont aujourd'hui trop compliqués ou qui sont peut-être susceptibles de ne pas être assez intéressants?
C'est difficile. À la télévision, à une heure de grande écoute, on est obligé de faire attention. Quand je dis attention, c'est-à-dire de choisir un thème justement qui va fédérer. Et effectivement, vous l'avez dit, il y a des thèmes qui peuvent éloigner le public. Alors, nous, on est très loin par rapport au niveau de Science et Avenir. On fait une émission grand public qui s'adresse à un public qui n'a pas forcément d'affinité avec la science. Donc, il faut qu'on réussisse à séduire ce public et à l'emmener malgré tout vers la connaissance. Il me semble, enfin, je sais pas, Mathieu, tu me diras, mais il me semble que Science et Avenir, c'est déjà même si c'est un magazine grand public, mais un public qui a malgré tout déjà cette petite sensibilité pour le sujet de science.
C'est déjà un public qui a fait la démarche de soit s'abonner, soit aller au kiosque pour nous acheter. Donc, il y a déjà une démarche volontaire d'y aller.
Voilà.
Ça, c'est sûr. Moi, pour répondre à ta question, j'ai envie de dire que, il faut rien s'interdire au départ. Ça ne veut pas dire qu'après, en cours de réalisation, tu ne vas pas avoir des problèmes. Mais au départ, tu peux rien t'interdire. Après, dans la réalisation, il y a un problème qui se pose, c'est que nous, on fait un magazine, Jamy, il a fait beaucoup de télévision. Il va falloir que les choses soient visuelles, sonores. Oui. Il faut une mise en scène. Et tous les sujets ne se prêtent pas de manière égale à ce type de mise en scène. La question est encore plus importante pour Jamy que pour nous, mais nous, on a besoin au moins de mettre en scène, de mettre des photos, de faire des infographies, et tout ne s'y prête pas. Ça, c'est une chose. Et après, la deuxième, on en revient à ce que disait Jamy tout à l'heure, c'est le problème de la culture générale. Alors, je prends l'exemple extrême, qui est un sujet qui, on sait que ça passionne les gens, ce sont les mathématiques. Mais les mathématiques, si tu regardes la recherche en mathématiques, si tu regardes ce que tu apprends même jusqu'au lycée en terminale scientifique, eh ben, tu arrives à des maths du 18e siècle. Si tu veux aller savoir ce qui se passe dans les maths du 20e, 21e siècle, eh ben, on va te répondre que c'est sur des sujets de recherche. On peut compter sur les poignées d'une main ou de deux mains les personnes qui vont comprendre exactement de quoi il en retourne. Donc, à partir de là, on sait qu'on va devoir faire de l'histoire des sciences et de revenir à des bases qui empêchent d'être vraiment dans l'actualité brûlante. Donc, voilà. Si tu confrontes ce problème d'actualité et ce problème de mise en scène, ça fait qu'il y a naturellement un certain nombre de sujets qui ne deviennent pas impossibles, mais difficiles à traiter.
Compliqué.
Non, c'est pas le sujet qui est inintéressant, c'est à chaque fois le contexte. Il faut le contextualiser par rapport à la culture du public, par rapport aussi à ce qui se déroule à l'instant où on va proposer un sujet. Et puis, il faut jamais désespérer non plus. Moi, je sais qu'il y a des sujets que l'on propose à un moment qui sont refusés ou pas acceptés, qu'on va retravailler. Et puis, il va se passer quelque chose dans l'environnement. Alors, quand je parle d'environnement, je parle pas d'écologie, mais il va se passer quelque chose qui va déclencher d'un seul coup un intérêt plus particulier pour tel ou tel sujet. Sur l'espace, notamment, l'espace, en France, a un extraordinaire ambassadeur qui est Thomas Pesquet. Ah, oui. Et je crois que, il y a beaucoup d'émissions qui auraient peut-être pas été acceptées si, Thomas Pesquet n'avait pas été là pour porter la voix de la connaissance dans ce sujet. Donc, vous voyez, tous les moyens sont bons quand on veut parler d'un sujet. Il faut se dire, bon, il n'a pas été accepté cette fois-ci, il le sera peut-être une autre fois, peut-être que c'est aussi à nous de revoir la copie parce que notre copie n'était pas assez séduisante, ce que nous voulions dire n'était pas assez bien mis en valeur. Il n'y a pas de sujet interdit a priori, il y en a qui sont plus ou moins faciles à vendre, voilà, c'est tout.
Et vous en avez un là dans les tiroirs par exemple à nous vendre ?
Dans les tiroirs, pour le moment, j'en ai pas qui ne suscite pas d'intérêt. Voilà, en ce moment d'ailleurs, j'ai très envie de faire une émission sur justement l'histoire des virus et le rôle justement des virus dans l'évolution, parce qu'aujourd'hui on a ce regard sur les virus, le virus fait peur, sauf que des virus, il y en a partout autour de nous, que 8% de notre ADN est constitué de séquences de virus. Donc voilà, il y a quelque chose à faire, il y a une belle histoire à faire autour du virus.
Eh bien, c'est noté. On éveillera notre attention sur le sujet.
Mais je lirai Science et Avenir pour me renseigner sur le sujet.
Exactement. Bon, Mathieu, t'enverras le dossier si t'en as un.
Je suis sûr qu'il est en préparation.
on a une chance quand même extraordinaire, c'est qu'on traite des sujets compliqués, mais qui se renouvellent tout le temps et qu'on peut toujours raconter de façon ludique. Moi, c'est... Jamy parlait tout à l'heure d'aller chercher les enfants. Moi, je me dis toujours, voilà... On raconte des belles histoires, c'est des choses qu'on a envie après de pouvoir raconter, de transmettre à d'autres, parce que ce sont des belles histoires avant tout. Et en plus, on apprend des choses. Et en plus, ça permet de comprendre le monde. Mais nous, on n'arrive pas avec, tiens, voilà, un Becherel, apprends-moi la grammaire. On arrive avec des choses qui, à travers une histoire, vont permettre de comprendre le monde, et c'est inépuisable.
C'est ça, le mot raconter des histoires est très important. C'est ce qui rend les choses à la fois agréables, mais aussi difficiles. Quand on choisit un sujet, c'est pas le sujet qu'on choisit. C'est bien sûr, il y a la thématique, mais après, c'est comment on va raconter tout cela, comment on va l'habiller, comment on va l'illustrer, quelle aventure on va raconter autour de tout cela. Vous savez, quand on commence un film ou quand on commence un article, certes, on veut que le téléspectateur ou le lecteur s'enrichisse, mais on veut aussi qu'il aille jusqu'au bout de l'article ou jusqu'au bout du film. Et pour qu'il aille au bout de l'article, eh bien, il faut qu'il soit bien écrit, il faut une belle histoire. Et pour aller au bout du film, ben, c'est un peu la même chose. Il faut de belles images, il faut une histoire, il faut du spectacle.
Eh ben, je crois que j'entends Marcel klaxonner au loin. Et bon, il doit être garé en double fil, pas évident quand même en ce moment. Bon, en même temps, je crois que nos neurones ont bien été aérés. Il est même temps peut-être de rentrer chez soi et de continuer tranquillement et sûrement notre confinement. Jamy, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu justement de ton confinement sur YouTube, Instagram, les autres réseaux. Où est-ce qu'on peut retrouver ta capsule vidéo ?
Eh ben sur la chaîne YouTube, Jamy, et puis tous les jours, je publie donc cette capsule sur les réseaux aux alentours de 18-19 heures. Alors en exclusivité sur YouTube et ensuite sur les réseaux.
Sur les autres réseaux. Alors du côté du Monde de Jamy, donc l'émission que tu animes sur France 3 avec Eglantine Émeillé, quelle est ta prochaine actualité, sachant que nous enregistrons le 20 avril et qu'on devrait paraître avant la fin du mois d'avril, ça c'est certain.
Eh bien, si on paraît avant le 27 avril, il y a une rediffusion, ces animaux qui nous font du bien, qui est une très très belle émission aussi. Quand je l'ai revisionnée, j'en ai eu la larme à l'œil, parce que c'est une émission dans laquelle il y a beaucoup d'émotions, mais pas que de l'émotion. Il y a aussi pas mal de science et de connaissances. Et c'est quelque chose, voilà, juste pour conclure, que j'aime beaucoup faire. Moi, j'aime bien donner de la connaissance, mais qu'il y ait aussi de l'émotion. Je considère que on peut être ému hein, par ce que l'on voit autour de nous, mais dès qu'il y a un peu de connaissance derrière ce que l'on voit, eh bien, l'émotion est encore plus grande.
Mathieu, on va feuilleter un petit peu le dernier Science et Avenir, si tu veux bien. Déjà, est-ce qu'on peut toujours le trouver en librairie ? C'est une question toute bête. Hein.
Alors, je rends hommage ici aux imprimeurs, aux façonneurs, à tous ceux qui transportent après les journaux et les vendent dans les maisons de la presse et les kiosques, qui font toujours leur travail. Et donc, oui, on peut toujours lire aujourd'hui Science et Avenir comme si de rien n'était. On a même peut-être un peu plus de temps pour le faire. Et sinon, on peut le lire en numérique sur notre site avec des abonnements numériques. Mais en tout cas, la version en papier existe toujours. Merci à tous ceux qui y travaillent.
Alors cet épisode étant un peu spécial, il vient s'intercaler entre nos rendez-vous habituels. Vos tympans devraient s'agiter bientôt, hein, je dis d'ici une ou deux semaines, au son de notre générique. Vous voilà prévenus avec un nouvel épisode avec Azar Kaladbari, où on en parlera des secrets de l'univers qu'il nous reste à percer. A très vite, et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.